Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Essai de la semaine, Germain. On va commencer par le Volvo XC40 Recharge qu'on a conduit tous les deux.
Oui, effectivement. Donc, l'équivalent de la Polestar 2, mais chez Volvo, dans une approche un peu différente. Donc, au lieu d'avoir là une voiture polyvalente, ben, on a carrément un VUS. Donc, le XC40 qu'on connaissait déjà dans ses versions à essence arrive pour la nouvelle année en version 100% électrique. Un premier véhicule 100% électrique pour Volvo. Et quand on embarque à bord, ben, c'est du Volvo tout craché. Donc, on a droit à une finition qui est, à mon avis, sans reproche et une conduite. Et c'est important de le mentionner, une conduite qui est intéressante. C'est un véhicule qui a du punch. Donc, les reprises sont intéressantes. Les accélérations sont fulgurantes. C'est sûr que c'est un véhicule qui est bourré de technologie. Il faut prendre le temps de s'adapter. Il faut prendre le temps de l'étudier bien comme il faut. Mais pour avoir suivi un peu ce qui se passe autour de ce véhicule-là, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas suffire à la demande. Donc, c'est un véhicule pour lequel il y a un certain engouement parce que c'est un véhicule électrique de luxe. Et je pense qu'il y avait un certain nombre d'adeptes du XC40 à essence qui pourraient être intéressés à faire le saut vers cette version-là électrique. Et surtout qui...
Oui, parce que quand tu passes d'un XC40 à essence à ça, c'est une autre dimension. La puissance n'est pas la même.
Absolument.
Le silence de roulement, la verve qu'on retrouve dans le Recharge, c'est vraiment tout autre quelque chose de complètement différent.
Et comme tu le mentionnais sur une autre tribune, Antoine, il n'y a pas d'équivalent direct, de concurrent direct. Oui, il y a le Mustang Mach-E ou le Tesla Model Y, mais c'est des véhicules peut-être un peu plus spacieux, un petit peu plus gros. Là, on est vraiment dans un format très compact. C'est sûr que dans l'échelle de prix, on se rapproche un peu, mais c'est une approche différente. Donc, si on pense là au concurrent direct du XC40 à essence...
Un BMW X1, par exemple, il n'y a pas d'équivalent électrique.
Non, ni chez Mercedes, ni chez Audi. Donc, finalement, on a la tarte au complet chez Volvo. Et comme tu t'en glissais un mot la semaine dernière, tout est vendu d'avance.
C'est le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas de production. La demande est tellement forte du côté de l'Europe qu'on peine à être capable d'en offrir chez nous.
Parce qu'on sait qu'il va être populaire au Québec, peut-être un peu là, dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, mais ailleurs, en Amérique du Nord, ça risque de...
La Californie.
La Californie, mais ça va se résumer à ces trois territoires-là.
Sauf que quand tu es un constructeur automobile puis que tu veux vendre un véhicule électrique à l'échelle mondiale et que tu sais que tous les pays scandinaves s'arrachent tout véhicule électrique qui existe, écoute...
Surtout quand ils sont
suédois.
Alors
ça, c'est intéressant. Et contrairement à Polestar, il faut savoir que ce véhicule-là est fabriqué du côté de la Suède et non pas...
Alors que la Polestar 2 est faite en Chine.
Alors ça, c'est une nuance importante. Même si on partage la même technologie, parce qu'il faut le mentionner.
Plateforme, moteur, batterie, tout est pareil.
Exactement. Alors, c'est 402 chevaux de puissance issus de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, 78 kW au niveau de la batterie. Une autonomie annoncée à 335 km. Décevante, mais très réaliste. Donc, on n'est pas là en comparaison avec un Tesla Model Y au niveau de l'autonomie. Et ça, c'est dommage, mais à peu près n'importe qui a besoin de faire un trajet raisonnable et qui ne fait pas du Montréal-Québec deux fois par semaine va être capable de vivre avec l'autonomie de ce véhicule-là.
C'est sûr que tout le monde voudrait 400 km, là, mais peut-être qu'on aura droit à une version autonomie prolongée dans les années à venir.
Le problème, c'est que ça va évoluer tellement rapidement que j'ai l'impression qu'à 335 km, ça va rapidement devenir désuet comme produit. Ça n'enlève rien aux qualités côté dynamique
absolument
du véhicule.
Pas.
Mais je te donne, par exemple, la e-Golf de Volkswagen, qui est une voiture super agréable à conduire. Mais l'autonomie de ce produit-là n'a pas de bon sens aujourd'hui par rapport à ce que le marché propose.
Et un autre point commun entre la e-Golf et le XC40, c'est qu'ils ont l'air des véhicules, entre guillemets, normaux. Donc, ils sont dérivés d'un véhicule à essence. Donc, quand on les regarde...
quand même, parce
quand
que...
on les quand on les regarde de l'extérieur, ça ne choque pas l'œil comme... et on n'a pas la forme d'un neuf comme un Mustang Mach-E, par exemple.
Ou le Volkswagen ID.4 qui va arriver
absolument
prochainement. Non, ça, c'est certain. Mais le XC40 Recharge, bon, c'est un produit, ironiquement, on le vend un peu moins cher que la Polestar 2.
Ouais.
64 950, la majorité des versions commandées par les concessionnaires, on est autour de 70 72 000. Il faut savoir un truc, c'est que on va en avoir à peine 200 à 300 unités pour l'ensemble du pays, ce qui en fait quelques unités seulement par concessionnaire. Ce n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux. Donc, parce que la limite est à 60 000 pour le Québec. Donc, ça, c'est le point qui est un petit peu agaçant. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on amène éventuellement une version qui serait moins chère et qui pourrait le rendre éligible. Évidemment, parce qu'on vend tout ce qu'on produit actuellement.
Mais en même temps, si les acheteurs privilégient une version plus haut de gamme, plus équipée, il n'y aura peut-être pas d'intérêt à vendre une version qui serait finalement moins rentable en plus. Là.
Non, sauf que si tu réussis à rentrer un Volvo XC40 que tu vas vendre 59 999, bien ceux qui sont vendus à 65 pourraient être éligibles
droit
aussi.
À moins d'arriver avec une version à deux roues motrices.
C'est ça. À moins d'arriver avec une version qui, à ce moment-là, sur le plan technique, serait différente. Parce qu'on sait ce qui est arrivé avec la Mustang Mach-E.
On était resté un peu surpris, je pense, chez
Mais,
Ford,
mais
chez
c'est,
Ford
c'est quand
Canada.
Même un véhicule super intéressant. Hâte de voir quelle sera la réelle réponse à long terme de la clientèle sur ce produit-là, parce que pour l'heure, effectivement, c'est à peu près tout vendu.
Tu as conduit également cette semaine, Antoine, la Chrysler Pacifica en version à quatre roues motrices, un peu surélevée.
Moi, je suis un fan de la Pacifica. Depuis que ce véhicule-là est arrivé sur le marché, je trouve que c'est la fourgonnette la mieux pensée, la plus confortable, la mieux construite. Est-ce que c'est la plus fiable sur le long terme? Probablement pas, mais Chrysler a mis toute son expertise dans le développement de ce produit-là qui
est arrivé
en 2016 et ça paraît, mais ça vend pas. Alors, c'est un véhicule qui est trop cher. C'est un véhicule qu'on ne pousse pas chez Chrysler. Chrysler veut vendre du Jeep, du Ram, mais on ne pousse pas la fourgonnette, malheureusement.
Puis en plus, on a intégré tôt, en plus de ça, la technologie hybride rechargeable à bord de la Pacifica.
Puis ça a donné un coup de main pour en vendre un peu plus du côté du Canada, mais c'est embryonnaire comme volume par rapport à la Dodge Grand Caravan. Je vais te donner un exemple. Bon, la Caravane, ça a déjà été 50-55 000 unités au Canada. C'était quelque chose, c'était du gros volume. L'année passée, le produit étant vieillissant, la pandémie oblige, on en vendait 22 000 au pays. Ce qui est quand même pas rien, 22 000 grands caravanes vendues au Canada. On vendait à peine 2 000 fourgonnettes Chrysler Pacifica au pays tout entier l'année passée.
Donc, on n'est pas là du
tout. C'est rien, là. On n'est pas là du tout. Là. On est loin derrière les Sienna, les Odyssey.
Ouais.
Donc, c'est vraiment alarmant. Et là, Chrysler arrive cette année avec une gamme repensée de la Pacifica. Donc, on a redessiné la partie avant, la partie arrière, ajouté des technologies à la planche de bord, Apple CarPlay, Android Auto notamment, qui est sans fil, une instrumentation un peu plus moderne. On a ajouté aussi le rouage intégral dans le cas du véhicule.
C'est la grande nouveauté, là.
La grande nouveauté, en fait, pour certaines versions, parce que là, on a 5 versions de disponibles pour la Pacifica, plus 2 versions de la Grand Caravane, qui est la Chrysler.
Oui.
En fait, c'est une...
Bonjour la confusion,
c'est
là.
C'est ça. Alors, c'est une Pacifica 2016 de base qu'on a... Celle-là, on ne l'a pas redessinée, alors que la Pacifica de nouvelle génération, qui est une évolution, elle s'appelle Pacifica. C'est très mêlant, tout ça.
S'appelle Voyageur aux États-Unis. La Pacifica de base.
Oui, c'est ça. Fait que
c'est impossible
bonjour
de s'y retrouver.
Bonjour la confusion, mais le nom Grand Caravane au Canada était tellement populaire on a décidé de le garder en le mettant sous le giron Chrysler.
On a bien fait, cela dit.
Et donc, vous pouvez avoir pour l'heure une fourgonnette Pacifica qu'on appelle Grand Caravane, mais avec un équipement de base, là, je dirais de, pas aussi de base qu'avec l'ancienne Grand Caravane, mais plus classique. Là. Le prix d'entrée est à 37 995 et on enlève à peu près 5 000 de rabais en partant chez Chrysler. Donc, une fourgonnette chez Chrysler, aujourd'hui, ça part à peu près à 32 33 000 financé à 2,99 de taux de financement. Location, on n'est pas là. On est à du 6 %, puis on veut rien savoir dans le
Donc, achetez-les, puis revenez quand vous serez tanné.
C'est ça. C'est mais ça en fait, je pense, une fourgonnette intéressante, la Chrysler Grand Caravan. Sauf que le véhicule que j'ai conduit cette semaine, autant puisse-t-il être raffiné, luxueux, confortable, super intéressant sur tout ce que vous voudrez. J'ai trouvé que la quincaillerie du rouage intégral, on la sentait. Je veux dire, tu sens le poids, tu sens le fait que le véhicule est un peu surélevé. Moi, ça m'a pas plu
ça
particulièrement.
Ça me rappelait un peu le Chrysler 300 à quatre roues motrices qui était surélevé par rapport à celui qui était propulsion.
C'est ça.
Donc,
c'est un peu le même principe.
Une intégration qui n'est pas tout à fait discrète. Là.
Non, c'est ça. Donc ça m'a déçu un peu, mais le prix...
Oui, ça aussi, ça fait peur.
Alors,
là.
On est à 69 000 $ pour la fourgonnette Pacifica Pinacle que j'ai conduit. Il y a 10 000 $ de rabais Chrysler applicable en partant, mais même à ça, ça en fait un véhicule de 60 000 $ avant taxe. Là. C'est très, très, très cher. Et ça explique pourquoi ça se vend pas. C'est pas compliqué. Quand tu regardes ça rationnellement, ce véhicule-là, a pas moins de pertinence que si tu vas t'acheter, par exemple, du côté de chez Ford, un Explorer bien équipé. Là.
Absolument.
On s'entend.
On est dans les mêmes eaux.
On est dans les mêmes
eaux. Mais on n'a pas de porte coulissante.
C'est ça. Puis les gens ne veulent plus acheter de fourgonnette. Pourtant, c'est un véhicule plus pratique, plus spacieux, plus polyvalent. Mais les gens veulent acheter des VUS. Et une fourgonnette, parce qu'il n'y a pas de demande, bien, la dépréciation est plus forte. Donc, il y a ça. Puis il faut savoir aussi qu'on amène le rouage intégral, mais on ne peut pas combiner le rouage intégral avec la motorisation hybride chez Chrysler. Alors que du côté de chez Toyota, on le fait avec une consommation moyenne d'à peu près 7,5 litres au 100.
Qui est la moitié de celle de la Pacifica.
J'ai roulé à 14 litres cette semaine.
C'est exagéré.
Donc, je ne donne pas long feu de la carrière de cette fourgonnette-là, à moins qu'on se ravise au niveau des prix. Là. Cela dit, pour bien aller, ça va extrêmement bien, mais je ne choisirais pas une version à rouage intégral. Je conserverais le choix d'une version à roue motrice avant. Ça va mieux, c'est plus léger. J'ai trouvé que ça faisait le travail. Et qui plus est, si vous voulez aller dans les hautes sphères de la Pacifica, ben allez-y pour une version hybride. Là, ça vaut la peine. Parce que vous avez 50-55 km d'autonomie 100% électrique. Après quoi, vous tombez en mode hybride.
Ouais.
Vous allez finir...
Très
avec...
efficace.
Ah, très efficace. Vous allez finir avec une moyenne de quoi? 3-4 litres au 100 si vous roulez 100 km par jour. C'est éligible au plein crédit gouvernemental de 13 000 $.
Sur le plan financier, c'est très intéressant.
Sauf que ça, Chrysler, les résiduels n'existent pas, il n'y a pas de possibilité de location, il n'y a rien à faire, c'est vous l'achetez, c'est tout. Et on ne peut pas dire que la fiabilité jusqu'à maintenant a été sans reproche pour cette technologie-là, surtout pour les véhicules de la première année qu'on avait amenés en 2017.
Merci Antoine.